Les 40 ans du Murano Continental avec Pierre Chaudoir et Olivier Gossery. Quand la pop culture rencontre l'histoire. Avec aujourd'hui Richard XXIII de Front de 4-2.
Richard XXIII.
Richard XXIII, oui.
Merci d'être là. On rappelle Front de 4-2 en deux minutes, c'est quoi ?
C'est un groupe de musique électronique belge qui existe depuis 1981.
Et qui existe, parce que
40
ça existe
ans,
encore.
40 ans cette année, qu'on n'a malheureusement pas pu célébrer encore à cause de la pandémie, mais on est toujours là, on est toujours actif, en tout cas en concert. Donc voilà.
C'est le même anniversaire que le Murano, puisque le Murano est né en mars 81, donc c'est pas par hasard, il n'y a jamais de hasard.
Dingue,
Richard, futur entraîneur du Standard de Liège aussi, hein, c'est un scoop.
Over my dead body.
Non, moi je suis très standard, moi je prends.
Non mais on parle de foot parce
que
Richard et moi on a un passé footballistique commun assez amusant, et je dis toujours, avant d'aller voir Front de 4-2 pour la première fois de ma vie en concert, j'ai d'abord rencontré Richard sur un terrain de foot. On n'est pas là pour parler
dans les vestiaires.
Oui voilà, et dans les vestiaires. Mon cher Richard, content de te voir. D'abord un peu punk, hein, au milieu des années 70, tu vas avoir des groupes belges de punk.
Oui, j'ai fait ça. Oui. J'étais pas vraiment punk, mais je fréquentais tous les premiers punks de Bruxelles. Oui.
Tu m'as parlé d'un groupe qui s'appelait Spermici.
Entre autres.
Vas-y, raconte-nous un peu cette période un peu glauque de ta vie.
Au contraire, c'est pas une période glauque parce que je pense qu'on s'est pas mal inspiré avec le groupe de l'énergie qu'il y avait dans les groupes punk, pas de la musique, mais de l'énergie et de do it yourself. Donc voilà, oui, j'ai 14 ans, 77 quand les Sex Pistols arrivent. Il y a les premiers punks qui arrivent à Bruxelles et les premiers groupes punk Spermici, Contingent. Phallus Band, ça s'invente pas non plus. Donc voilà, je me retrouve à ces concerts un petit peu, je prends tout ça comme un coup de poing dans la gueule. C'était le début de mes premières sorties, donc c'est vraiment le choc. Et je suis pas spécialement fan, même si j'aime la musique, j'aime l'album des Sex Pistols à ce moment-là, mais c'est surtout l'énergie qui m'intéresse. C'est vraiment un kick parce que avant ça, j'étais entouré de gens qui écoutaient des trucs plutôt rock, des trucs plus progressifs, Yes, Genesis, etc. Et ça m'embêtait un peu.
Mais parallèlement à ça, tu découvres aussi la musique électronique via Kraftwerk, qui te font penser à des films de science-fiction, à cette musique. Et là, tu te dis, c'est la musique de l'avenir. Il y a un deuxième choc musical dans ta vie, c'est à la même époque. Hein,
plus ou moins à la même époque, oui.
Ouais, donc tu découvres Kraftwerk, raconte-nous un petit peu. Donc,
c'est la première fois que j'entends Kraftwerk vraiment bien. Je l'ai peut-être entendu avant à la radio, mais c'est un pote à moi qui a le même âge, mais il a une sœur un peu plus âgée, dont je suis peut-être un petit peu amoureux à l'époque, et elle est la chambre à côté. Et elle écoute des trucs comme Pink Floyd, et puis j'entends un truc comme Oxygène, enfin en tout cas Jean-Michel Jarre, et puis j'entends un truc vraiment différent. Et c'est Kraftwerk, et là j'ai une espèce de révélation, et comme tu dis, depuis tout petit j'adore les films de science-fiction, et en particulier un film que j'ai vu quand j'étais tout petit qui s'appelle Planète Interdite, dont toute la bande-son est uniquement électronique. Ça je l'ai su par après, mais c'est un film qui m'a marqué, qui m'a effrayé, et j'ai fait la relation entre les films de science-fiction que j'adorais et la musique électronique.
Est-ce que si on met les deux ensemble, la musique électronique et le punk, ça fait Front 2-4-2?
J'irai pas jusque là, mais en tout cas, il y a clairement ce qu'on a eu comme problème avec la musique électronique du début des années 80, des groupes qu'on aimait beaucoup comme Depeche Mode ou Human League ou Orchestral Manoeuvre. Électronique, musicalement c'était très intéressant. Une fois qu'on allait voir en concert, on se retrouvait avec quatre gars qui étaient derrière des synthés qui bougeaient pas. C'est la même chose avec Kraftwerk, sauf que Kraftwerk développait tout un concept. Ils amenaient leur studio sur scène, il y avait des projections, il y avait les robots et tout ce truc là. Chez les autres groupes on retrouvait pas ça, et on s'est dit qu'il manquait vraiment le chaînon manquant dans la musique électronique, c'était l'aspect humain, physique, la danse. Et on n'était pas vraiment les premiers, hein. Il faut reconnaître qu'il y avait des groupes comme DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, qui était un duo dont le chanteur était très énergique sur scène aussi, avec un batteur. Donc il y avait un côté beaucoup plus humain. Et donc on a essayé d'injecter cette énergie, cette punkitude dans les concerts de Front. Et je terminerai par dire que le studio, le travail de studio était plutôt un travail réfléchi, de concept, où on discutait beaucoup de ce qu'on faisait. Et puis une fois qu'on était en concert, on se lâchait.
Ce qui est bien avec toi, Richard, c'est qu'on peut parler au présent. Hein. Donc il y a encore un groupe qui existe, ça c'est quand même fantastique, après 40 ans. Un peu retardé, mais il y a une espèce de confinement qui vous ennuie un petit peu. Mm-hmm. Mais il y aura une actualité assez vite. Hein. Donc on essaie de remonter sur scène, évidemment, pour le plaisir de tous.
Alors on espère, fin du mois d'août, il y a un festival qui s'appelle Sinners Day à Ostende, où on est à l'affiche avec d'autres groupes de l'époque, Neon Judgment entre autres. J'ai l'impression que ça va se passer d'après ce que d'après les nouvelles qu'on a.
Ça va bien se présenter, oui.
Et puis on part aux États-Unis. On a un mois de tournée, on a 16 dates aux États-Unis, tournée qu'on devait faire en fait septembre de l'année passée, qui a été postposée au mois de mars et qui maintenant en principe devrait avoir lieu aussi.
Et c'est où aux États-Unis alors?
On joue un peu partout, de la côte est à la côte ouest.
C'est hallucinant ça. Ouais. Pourquoi est-ce que tu ne me dis rien?
Anecdote, je les vois en concert en 2006 à Washington DC. Richard sait que je vais venir. Il me met sur la guest list. Après un titre, il prend le micro et me dit « Oli, est-ce que tu es dans la salle ?» Je lève timidement la main et me dit « Le Standard ne sera pas champion cette année. »
Ah, c'est ça. Donc c'est supporter de l'Union ou du Sporting alors?
Molenbeek, hein.
Tout ce qui est bruxellois.
Alors, Richard, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi Richard le clubber, le fêtard, celui qui est sorti dans les boîtes. Vas-y, ton parcours, tu m'as parlé du Westside, vas-y.
C'est la première boîte dont j'étais membre, je ne sais plus si j'avais 16 ou 17 ans, à l'époque ils n'étaient pas trop regardants, donc c'est le premier club où j'avais une carte de membre, que je payais un truc annuel à 500 francs, enfin on se saignait à l'époque pour 500 balles. Et c'est un club en fait où on passait pas que de la New Wave, mais tout ce qui est ce que j'appelle New Wave related, c'est tous les groupes qui ont un petit peu été le socle de la New Wave, des gars comme Bowie ou Iggy Pop ou Roxy Music. Donc il y avait un mélange de tout ça, on passait du Blondie, on passait du ska, et ça c'est je dirais oui vraiment 80-81. Et pour moi c'est un club qui m'a marqué parce que je découvrais aussi plein de trucs quoi. Et à l'époque, ce qu'il faut par rapport à maintenant, il y avait un DJ résident qui tournait dès que les portes s'ouvraient à 10-11 heures du soir jusqu'à 7-8 heures du matin. Le gars, il faisait son taf.
Claude Milan, platine, frère de Jacques Duval.
Tout à fait.
Tu es devenu DJ aujourd'hui, hein? Tu peux nous en parler?
Oui, ça c'est peut-être un grand mot, DJ.
DJ que.
Oui, ça nous arrive. On nous demande souvent s'il y a des membres du groupe et DJ parce qu'ils ne savent pas se payer ou avoir les conditions techniques pour avoir front de 4-2. On a commencé vers 2004 avec Patrick.
Patrick Codenis
de front. Et moi, je n'avais jamais vraiment tourné, donc je n'avais pas envie d'apprendre pendant des mois à mixer. Tu m'as proposé ça il n'y a pas longtemps. Mais pourquoi tu n'es pas venu chez moi? Et si j'avais vraiment pas envie, donc on a acheté un programme qui nous permettait de tourner avec un laptop et on fait ça de temps en temps, mais c'est pas. Parce que c'est du ponctuel, c'est du paracoup.
On n'est pas du front de 4-2 magnifique, savoir que ça existe encore. Évidemment, tu viendras à l'expo de Mirano, hein, à la Saint-Géry.
Voilà.
Oui. Tout l'été, tu as l'occasion d'y avoir. Et puis, savoir qu'il y a un groupe belge qui tourne aux États-Unis. Moi, je suis très fier.
40 ans de vie nocturne, socioculturelle et historique qui seront résumés en une expo. Alors, ton rapport avec le Mirano, moi, je me souviens de toi, en 99-2000, tu venais tout le temps avec Bertrand Crasson, ton grand pote. Hein. Mm-hmm. Mais tu as connu, évidemment, le Mirano de ce qu'on appelle le Mirano de la grande époque. Oui.
Moi, je pense être venu. Bon, après. Peut-être que certaines substances.
Ah, Nien nous a dit qu'il vous y avait amené.
Alors, si Nien l'a dit. Mais j'ai des souvenirs avec Nien au Mirano, ça c'est certain. Uh-huh. D'avant la bande dont tu parles, fin des années 90. Donc j'y étais quelques fois. Mais je dois avouer, comme je disais, début des années 80, moi je sortais au Westside et puis plus tard à l'atelier.
On a des photos, il y a du dossier.
Voilà,
du dossier.
Et puis effectivement, fin des années 90, alors je t'avais déjà rencontré avant, ouais. avant ça. Et on y est allé un paquet de fois. Et surtout les soirées dont j'ai cherché le nom sur la route où il y avait un groupe qui venait jouer au milieu de la nuit. Ça s'arrêtait pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Il y avait un groupe qui c'est là que j'ai vu Sold Out pour la première fois. Comment s'appelaient les
soirées Dirty Dancing?
Dirty Dancing, ouais. Merci. Okay. Et ça, j'en ai fait quand même pas mal non plus. Donc pour moi, le Mirano, c'est plutôt, on va dire, fin 90, début 2000. Ouais. Voilà.
Très bien, c'est la génération. Merci beaucoup, Richard 23. Merci, Olivier Gosserie. Et je rappelle, front de 4-2. En Belgique, à Ostende et aux États-Unis, messieurs.
Oui, plus tard, après, à Louvain, magnifique. À Courtrai, on a plein de dates.
Ça existe encore, voilà, bonne nouvelle, ça. Merci, les amis.
Merci à vous. I think it dangerous.
I think it's dangerous.